Alors, je commence à lire le texte de la page 7, où Butler continue à développer cette idée hein, des pratiques, de l'importance de la pratique. Mais le mot pratique, je le souligne d'emblée, le mot pratique qui donc renvoie au terme grec praxis, chez Aristote, la praxis se distingue de la poiesis. Et la poiesis, c'est ce qu'on traduit par la production, la fabrication. Ça, c'est dans le premier chapitre de l'Éthique à Nicomaque. Et la distinction que Aristote fait entre praxis, donc disons acte humain, et poiesis, c'est que la poiesis a pour finalité la production d'une œuvre qui est extérieure à celui qui la fabrique, alors que la praxis a pour finalité la perfection de celui qui agit. Donc vous voyez, c'est différent. Pour Aristote, la poiesis, c'est une activité qui a pour but la perfection de l'œuvre. Qu'au fait de la cuisine, le but, c'est de faire un bon plat. Et par contre, la finalité de la praxis est immanente à celui qui agit. Bon. Et pour Aristote, hein, je passe rapidement sur ce point, mais c'est pour montrer le décalage par rapport à ce que dit Butler. Pour Aristote, évidemment, c'est le champ de la vie morale, l'acquisition des dispositions vertueuses, la réalisation de soi passe par la praxis, par des actes de justice, des actes d'amitié, des actes de tempérance, etc. Or, chez Butler, on est dans la poiesis. On est dans la poiesis. Quand elle utilise le mot pratique, en fait, pratique ici renvoie à un faire, c'est-à-dire à une production. Parce que l'idée de praxis chez Aristote implique que l'homme, ce que je disais tout à l'heure, hein, se réalise par ses actes. Donc la praxis, elle est ce par quoi l'homme se réalise, parce qu'il a en lui des aspirations naturelles. Tandis que chez Butler, le mot pratique, en fait, renvoie à une fabrication, d'abord sociale, mais une fabrication sociale à laquelle je participe, hein, parce que c'est pas la société qui me fabrique à mon insu, enfin, comment dire, c'est pas la société qui me fabrique sans ma participation. Hein. Pour Butler, les pratiques discursives, je ne cesse de les intérioriser, je ne cesse de me façonner en y participant d'une certaine manière, en m'accoutumant. Vous voyez, donc c'est pas, faut pas imaginer que pour Butler, l'être humain est une sorte de pâte à modeler qui est façonnée par la société, comme si la société était une sorte de grand sujet qui agissait sur de la pâte à modeler. Vous voyez, c'est d'une certaine manière, nous nous façonnons chacun à partir des exigences de conformité de la société. Bon. Mais donc, on est, je répète, je conclue sur ce point, avec Butler, d'abord dans la poiesis, dans la fabrication d'une œuvre. Sauf que, évidemment, l'œuvre en question, c'est moi. Oui. Donc là, il y a une sorte de, hein, au niveau anthropologique et moral, c'est très important à méditer, il y a une sorte de court-circuitage ou de court-circuit entre praxis et poiesis. Qui a des enjeux évidemment très, très importants sur notre sujet. Alors, je lis maintenant le paragraphe 7, enfin la page 7. L'interrogation philosophique porte sur les traits constitutifs de l'identité personnelle Ce qui revient presque toujours à se demander, quel est le trait interne qui inscrit la personne dans la durée et la rend identique à elle-même. À l'inverse, on se posera ici le genre de question suivante. Dans quelle mesure les pratiques régulatrices de formation et de division du genre constituent-elles l'identité, la cohérence interne du sujet et même l'identité de la personne ? Dans quelle mesure l'identité est-elle un idéal normatif plutôt qu'un fait descriptif de l'expérience ? Et comment les pratiques régulatrices qui gouvernent le genre gouvernent-elles aussi l'intelligibilité culturelle des notions de l'identité ? En d'autres termes, la cohérence et la constance de la personne ne sont pas des attributs logiques de la personne, ni des instruments d'analyse, mais plutôt des normes d'intelligibilité socialement instituées et maintenues. L'identité étant fixée par des concepts stabilisants, tels le sexe, le genre et la sexualité, l'idée même de personne est mise en question par l'émergence culturelle d'être marquée par le genre de façon incohérente ou discontinue, des êtres qui apparaissent bel et bien comme des personnes, mais qui ne parviennent à se conformer aux normes de l'intelligibilité culturelle, des normes marquées par le genre et qui définissent ce qu'est une personne. Alors, je m'arrête là pour l'instant. Donc, je passe rapidement, hein, parce qu'on a déjà vu pas mal d'éléments, mais l'idée même de personne est mise en question par l'émergence d'être marqué par le genre de façon incohérente ou discontinue. Donc là, on voit hein, l'effet déstabilisant de gens qui, justement, sont d'abord vus comme incohérents et discontinue, et que c'est ça qui, justement, remet en cause le dispositif social. Donc, vous voyez, hein, le renversement dont je parlais hier de la perspective. Ce qui veut dire que pour nous, je répète ce point, parce que ça me paraît être un des points les plus importants pour articuler la théorie du genre à une critique plus large. Pour nous, il faut absolument réfléchir sur le statut contingent du développement de la sexualité de la personne. Qu'est-ce que je veux dire par là quand je parle de contingent ? Ça veut dire que on n'est pas devant des déterminismes biologiques automatiques. Autrement dit, la vie sexuelle d'une personne humaine, elle se manifeste dans des actes, bien sûr, mais elle est aussi elle est aussi en grande partie disposée par ces mêmes actes. Et là, vous avez toute la place de ce que l'on appelle la vertu, en fait. Ou le vice. Mais d'abord, la vertu. Autrement dit, la vérité sur la sexualité, hein, quand on en parle dans une anthropologie adéquate, ça ne veut pas du tout dire qu'on considère que c'est un donné de fait, que tout va bien, que tout ça se déploie comme ça, et puis non. Au contraire, c'est justement... Vous avez lu « Amour et responsabilité » de Karl Wojtyła, vous avez eu un cours dessus, non ? Bon. Il y a tout un passage très important sur justement la vertu de chasteté, par exemple, et donc sur le travail de la sur l'importance de la vertu. Or, la vertu, justement, elle s'acquiert par des actes. La vertu, c'est une disposition qui, peu à peu, me permet de donner toute la... de révéler et d'actualiser mes potentialités les plus vraies. Mais ça ne passe pas sans le travail de la vertu. Or, le travail, entre guillemets, donc l'acquisition de la vertu. Et la vertu, elle s'acquiert progressivement. Surtout dans ce domaine de la sexualité qui est un domaine justement très complexe, où il y a différents éléments, où un des éléments est le désir qui est qui peut être particulièrement véhément et fluctuant, il y a tout un travail d'intégration. Voilà ce que je voulais dire, d'intégration. Au cœur de l'anthropologie de Karol Wojtyła, dans Personne et Acte, mais aussi dans Amour et Responsabilité, il y a le concept d'intégration. Intégrer la diversité de nos, justement, de nos éléments personnels. Et c'est pas du tout automatique. C'est pas du tout automatique. La vie sexuelle d'une grenouille, hein, je connais pas très bien, mais je pense pas que ce soit trop compliqué, il doit pas avoir trop de ratés. Bon, la vertu de chasteté chez la grenouille ou chez je sais pas quoi, bon, ça doit pas poser trop de problèmes. Mais justement, pourquoi dans le monde humain, il y a beaucoup plus d'indétermination? Parce que justement, ce à quoi l'homme est appelé, c'est-à-dire le bonheur, il ne le réalise pas sans sa participation libre. Vous voyez ? C'est par nos actes libres que peu à peu nous nous réalisons et nous nous épanouissons. Ce n'est pas contre notre gré. Or, ces actes libres, nous allons les poser à travers toute l'épaisseur de notre affectivité, de notre sensibilité, de notre histoire, de nos dispositions. Et donc, je dis tout ça pourquoi ? Parce que tout ce travail d'intégration, tout ce processus d'intégration qui est la vertu, évidemment, il peut ne pas être effectué pour toutes sortes de raisons. Et donc, à la place de l'intégration, il peut y avoir de la désintégration.